Et c'est une psaume favori pour moi. Je crois que parmi tous les psaumes, c'est psaume 103 qui est une des plus favoris pour moi. Il y a des temps, peut-être pour vous aussi, où vous avez certains psaumes qui vous bénissent plus que les autres. J'étais vraiment béni par ce psaume dans la semaine et j'aimerais juste partager avec vous certaines vérités qui peuvent vous encourager aussi. La semaine passée, nous avons regardé ensemble le psaume 78. C'était une psaume historique qui avait le but d'aider David et le peuple de Dieu de ne pas oublier tout ce que Dieu a fait dans le passé. Et ce qu'il a eu, David, c'était un encouragement pour lui de ne pas oublier dans ce psaume, de ne pas oublier ce que Dieu a fait dans l'histoire. Malheureusement, David avait eu plusieurs problèmes dans sa famille, qu'on va regarder plus tard dans un message, peut-être en septembre. Les enfants n'ont pas eu la crainte de Dieu comme David a eu. Mais quand même, David était encouragé de ne pas oublier tout ce que Dieu a fait. Et dans ce psaume, c'est comme psaume 103, David était passionné maintenant par tout ce que Dieu a fait pour lui personnellement et tout ce que Dieu a fait aussi pour la nation d'Israël. Et c'était comme il était contraint de lancer un appel à bénir l'Éternel. Et le langage qu'il utilise dans ce psaume indique qu'il est émerveillé par la grandeur de Dieu. Vous allez voir les phrases qui indiquent toute cette grandeur de Dieu et combien il remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ce psaume se divise en quatre sections. Les premiers cinq versets, c'est un appel à son âme à bénir l'Éternel. C'est quelque chose de très personnel. De versets 6 à 18, c'est un appel au fils d'Israël à bénir l'Éternel. Le verset 19 à 21, c'est un appel aux anges à bénir l'Éternel. Et le verset 22, c'est un appel à toute la création à bénir l'Éternel. Je vais lire le psaume maintenant, le psaume 103, et nous allons regarder aujourd'hui seulement les premières 5 et 6 versets. Mais, psaume 103, c'est un psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits au Israël, au fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car ils savaient de quoi nous sommes formés. Ils se souviennent que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leur fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Dans le psaume 103, nous avons David en train d'avoir un désir dans son cœur que tout le monde puisse bénir l'Éternel. David savait bien que c'était facile à oublier et il est en train d'encourager nous tous à n'oublier pas et de se souvenir de tout ce que Dieu a fait. David parle à son âme. Il sait qu'il y a une différence entre ce qu'on dit de nos lèvres et ce qu'on dit de nos cœurs. David était un homme après le cœur de Dieu. Son cœur s'égare comme le nôtre, mais pour David, il revenait toujours à Dieu. C'est pourquoi il commence avec son âme et il parle à son âme de bénir l'Éternel. Il n'a pas dit de louer l'Éternel, mais de bénir l'Éternel. Et c'est là qu'il faut commencer un peu, juste pour essayer de regarder qu'est-ce qu'il voulait dire par ce mot « bénir ». Certains pensent que ce mot « bénir » égale exactement ce mot « louer Dieu ». Et c'est vrai, vous pouvez regarder certains textes et vous allez voir que c'est presque la même chose. Quand il dit, par exemple, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche », le psaume 34, verset 2. Il semble qu'ils sont des synonymes. Mais il y a aussi une nuance de ce mot. Chaque fois que quelqu'un bénit Dieu, il se souvient humblement de ce que Dieu a fait pour lui. Les louanges ne sont pas nécessairement liées à ce que Dieu a fait. Mais il me semble que le mot « bénir », c'est souvent lié à ce que Dieu a fait. Et l'idée aussi de remercier Dieu est proche à ce mot « bénir », mais remercier n'a pas l'idée de louer Dieu. Alors, si vous pouvez mélanger dans ce mot « bénir », cette idée d'adorer Dieu, de louer Dieu avec les remerciements, je crois qu'on arrive à ce fond de ce mot « bénir ». Bénir l'Éternel, c'est une adoration mêlée avec une humble reconnaissance de ce que Dieu a fait spécialement pour vous. Un exemple de ceci se trouve dans 1 Chronique, chapitre 29. À partir de verset 10, c'était au niveau de dédication du temple et David a béni l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit ceci, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » David dit à toute l'Assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'Assemblée, « Bénis l'Éternel, le Dieu de leur Père. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Toutes ces idées de se prosterner, d'adorer et de remercier Dieu pour ce qu'il a fait se trouvent dans ce mot « bénir ». David commence avec son âme. Il parle deux fois à son âme. Il disait dans verset 1, Mon âme bénit l'Éternel. Que tout est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de parler à toi-même. J'ai l'occasion parfois, quand quelqu'un n'est pas là, je peux parler à moi-même. Je peux dire, mais Walter, qu'est-ce que tu fais là? Et peut-être que tu parles aussi à toi-même. Mais David avait cette habitude et il était en train de s'adresser à son âme. Et c'est important pour nous aussi de regarder un peu ce mot « âme » dans les Écritures. Il parle de ce qui est là dans son homme intérieur, mais ce n'est pas seulement son intérieur qui est englobé dans ce mot « âme ». Le nom utilisé ici pour le mot « âme » a une idée pas simplement de l'homme intérieur, mais c'est un mot qui est utilisé aussi pour toute la personne, tout ce qui est là dans l'être humain. Une âme n'est pas ce qu'une personne possède. Souvent, on parle de notre âme comme c'est quelque chose qu'on possède. Pour un hébreu, une âme, c'est ce que la personne est. Cela désigne la personne tout entière, vivant ou même après la mort. L'esprit, quand on parle de l'esprit, ça ne désigne pas toute la personne, mais uniquement la partie immatérielle de l'homme. Mais pour ce mot âme, pour un hébreu, c'était tout son être, ça, y compris même son corps, ses parties immatérielles, la force vitale qui est dans l'homme, même le siège de la volonté et d'émotion, tout ça s'englobait dans ce mot âme. Et David est en train de s'adresser maintenant à son propre âme. Il est en train de dire, « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. » Je crois que c'est là où il faut commencer. Il faut commencer avec tout notre être de bénir l'Éternel, de bénir ce qu'il a fait et de bénir, il a dit, son Saint-Nom. Il a dit que tout en moi, tout ce qui est là à l'intérieur de lui, tout ce qui est là pour lui, qui bénisse son Saint-Nom. David commence à bénir son Saint-Nom. Ça, c'est aussi important à souligner. Son Saint-Nom. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel qui est utilisé à travers tout ce son. Le mot éternel, le nom éternel, c'est un nom qui est le nom Yahweh. Quand vous voyez ce mot Yahweh dans vos Bibles en français, c'est le mot éternel. Chaque fois que vous voyez le mot éternel, c'est le mot Yahweh. Et il faut se souvenir de ce mot Yahweh qui est le nom particulier pour Dieu. Si vous vous souvenez, c'était dans Exode chapitre 3 où Moïse disait à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui que je suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Vous voyez, au mot de ce mot, au milieu de ce mot Yahweh, c'est cette idée, c'est cette racine « je suis ». C'est la forme du verbe « être ». Yahweh, c'est la forme du troisième personne singulier « il est ». Et Dieu était en train de dire à Moïse « je suis ». C'est ça ce que je suis. Et il a voulu de montrer à Moïse maintenant, son nom sera Yahweh. Il est, c'est-à-dire Dieu est. Il est tout ce dont vous avez besoin. Et dans Exode, verset 3, chapitre 3, verset 15, il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. David commence en disant, béni son saint nom, béni ce nom Yahweh. Je suis béni celui qui a dit, je suis. C'est très intéressant dans le Nouveau Testament. Plusieurs fois, Jésus a utilisé ce nom de Dieu. Il a dit, je suis. Vous vous souvenez, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les pharisiens, les scribes, les israélites, tout le monde était prêt à le tuer parce qu'il a s'identifié avec ce nom spécial de Dieu. Le nom de Dieu est saint, son saint nom. Nous voyons à travers l'Ancien Testament cet aspect de la sainteté de Dieu. Le nom de Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelque chose est saint, c'est quelque chose qui est mis à part. Est-ce que vous savez, une fourchette ou une utensile pouvait être quelque chose qui est saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Ce n'est plus une chose ordinaire, mais c'est mis à part pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs choses qui étaient saintes. On avait la terre sainte. Vous savez, Dieu disait à Moïse, dans ce contexte qu'on vient de lire, Dieu dit, « N'approche-toi d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est-à-dire, ce n'est pas une terre ordinaire, c'est quelque chose qui est sainte, qui est mise à part pour moi. Jérusalem, c'était une ville sainte. L'Arche de l'Alliance était sainte. Le Temple de Dieu était saint. Et dans le Temple de Dieu, c'était le lieu saint et même le lieu très saint. Les sacrificateurs étaient saints. Ils étaient mis à part pour Dieu. Les vêtements ont été sacrés, mis à part pour Dieu. Même l'huile qu'ils devraient utiliser pour sanctifier le temple était saint. C'est-à-dire, c'était une huile composée d'une certaine manière que seulement les sacrificateurs pouvaient le faire. Et personne ne pouvait pas faire le même genre de parfum, le même genre de huile. C'était une chose sainte, mise à part pour Dieu. Le souverain sacrificateur lui-même, sur son front, Aaron, a pris une tiare et sur sa tête, il avait attaché une lame en or et écrit sur cette lame, c'était le mot sainteté à l'Éternel. Ce mot saint était très important pour les Israélites. Ils devraient distinguer ce qui est saint et ce qui était profane, ce qui était ordinaire et ce qui était saint. Il y avait plusieurs incidents dans l'Ancien Testament où il y avait des gens qui n'ont pas appris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas regardé comme saint quelque chose comme Dieu a considéré saint. Vous vous souvenez de l'histoire de Nabab et Abihu? Ils ont porté une encens à Dieu qui était étrangère, un feu étrangère, et Dieu les a tués à cause de cela. Ils n'ont pas mis à part pour Dieu ce feu, cet encens comme il fallait. Moïse aussi, malheureusement, il y avait eu un jour où il a tapé le rocher deux fois et il s'énervait contre le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, écoute, parce que tu n'avais pas cru, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux d'Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba où les Israélites contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. C'était cette idée que simplement Moïse, il a tapé ce rocher, qu'il n'a pas parlé à ce rocher comme il fallait, et le fait qu'il se fâchait contre le peuple d'Israël, ça indiquait que lui-même, il n'a pas démontré Dieu comme il fallait. il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Il a donné une impression de Dieu qui n'était pas bon et Dieu lui a dit, tu ne peux pas maintenant entrer dans la terre promise. Alors, il y avait des jours saints, des sabbats saints, des convocations saintes, mais tout Israël savait que Dieu est un Dieu saint, saint, saint. Et quand on prie même, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, Seigneur, que ton nom soit mis à part, que tout le monde puisse savoir exactement ce que tu es réellement. Et c'est là où David commence. En bénissant l'Éternel, il a dit que tout est en moi, bénis son saint nom. Son saint nom, son nom qui était mis à part. Et vous allez voir à travers tout le psaume 103, il est en train de mettre à part le nom de Dieu. Il est en train de montrer combien ce Dieu n'est pas comme ce monde. Combien ce Dieu, il est mis à part. Il est un Dieu qui est grand. Et il faut qu'on sache qui est notre Dieu. Comment est-ce qu'on peut alors bénir le Saint-Nom de Dieu? On commence simplement en ne pas oubliant aucun de ses bienfaits. Regardez dans le psaume 103, il disait, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout est en moi, bénis son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Nous sommes et nous avons des mémoires qui ne sont pas très bonnes. Je me souviens de temps en temps que j'oublie souvent. J'oublie et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Peut-être c'est la vieillesse ou c'est quoi, mais j'oublie souvent. Mais Dieu est en train de nous encourager, David est en train de nous encourager de ne pas oublier. Il faut utiliser alors notre mémoire. Si vous voulez bénir Dieu, il faut utiliser la mémoire. Il faut se souvenir. Et peut-être vous disiez, mais pasteur, je n'ai pas une bonne mémoire. Mais est-ce que vous savez la capacité de notre cerveau? Dans les termes d'un ordinateur, moi j'ai un ordinateur, je peux regarder, il y a 500 gigabits, gigaoctets dans mon ordinateur. Même mon téléphone a beaucoup de mémoire qui est là. Il y a des années, mon premier ordinateur a eu 4 mégabits ou 4 mégaoctets dans le disque dur. Et pour moi, c'était une chose tellement grande. Il y a 30 années, d'avoir 40 mégabits, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo et déjà, vous êtes atteint de 20 mégabits et parfois même 40 mégabits juste avec une seule photo. Mais pour nous, nous avons 2,5 millions de gigaoctets dans notre mémoire, dans notre cerveau. Il y avait une étude qui était faite sur cela. Pour mettre en perspective, il y a les premiers vaisseaux spatiaux Apollo qui se posaient sur la Lune. Et elle avait un système d'exploitation de seulement 64 kilooctets. Alors, c'est une capacité de stockage mémoire dans tout le vaisseau spatial. Pour comparer cela, même votre gripan numérique a une capacité de mémoire plus que ce qui était là sur cette vaisseau spatial. Notre mémoire, nous avons une capacité de mémoire incroyable. Pour encore mettre ça en perspective, si votre cerveau fonctionnait comme une enregistreur vidéo, il pourrait contenir 3 millions d'heures de programmes de téléviseur. C'est-à-dire, vous pouvez venir et regarder, votre mémoire pouvait fonctionner comme un téléviseur en permanence pendant 300 ans et vous ne pouvez pas épuiser la mémoire qui était là dans la capacité qui est là dans votre cerveau. C'est pour vous encourager. Si vous disiez que vous n'avez pas de mémoire, vous avez beaucoup de mémoire, beaucoup de capacités qui sont là dans la mémoire. Et voilà, peut-être vous disiez, mais c'est pas comme ça pour moi, mais c'est ça, c'est là. Et il ne faut pas oublier aucun de ces bienfaits. Et pour vous aider à se souvenir de tous les bienfaits, David nous donne des idées pour nous personnellement. Et ici, il n'est pas en train de parler à votre voisin, alors se souvient de ce qu'il a fait pour lui ou pour votre ami ou pour votre mari, pour quelqu'un d'autre. Le psalmiste de David est en train de dire, même spécifiquement, il est en train de dire, mais toi-même, écoute. Regarde quelque chose avec moi, je trouve très intéressant. Versets 3, 4 et 5. Il dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je pose la question, à qui parle-t-il ici? Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Il parle à qui? Est-ce qu'il est en train de parler aux Israélites? Tes fautes, tes maladies, ta vie, te couronne, ta vieillesse, il te fait rajeunir. Notez bien qu'à partir de verset 6, il y a un changement de pronom personnel. À partir de verset 6, il est en train de dire « nous, nous, nous ». Et à partir de verset 19, il parle de « vous, vous, ces anges, vous, ces armées ». C'est pourquoi je disais au commencement, on a ici dans verset 1 à 5, un appel à notre âme de bénir l'Éternel. Et à partir de verset 6 jusqu'à verset 18, on a un appel au fils d'Israël de bénir l'Éternel. Mais ici, dans verset 1 à 5, c'est très personnel. Il est en train d'adresser tes fautes, le « te » et le « ta », c'est qui? C'est nous-mêmes. Vous vous souvenez, il a commencé « mon âme bénit l'Éternel ».« Mon âme bénit l'Éternel ». N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Il est en train toujours de parler à son âme. Il est toujours en train de dire, mais mon âme, écoute, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Mon âme, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, c'est lui qui rachète ta vie du gouffre. C'est très, très personnel. Et David est en train de nous encourager de n'oublier aucun de ses bienfaits envers nous personnellement. Et c'est là, il faut simplement même s'arrêter maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi personnellement? Ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est grand, qui est au-dessus de toutes choses, ce Dieu qui nous donne une capacité de se souvenir, Dieu ne veut pas qu'on oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Ah, ça c'est un encouragement aussi. C'est Dieu qui pardonne toutes tes fautes. Si je commence à énumérer mes fautes, je serai là longtemps pour les énumérer, je crois vous aussi. Même si vous péchez seulement une fois par jour, multipliez 365 fois par le nombre des années que vous êtes là, déjà vous êtes un numéro qui est très grand. Mais j'imagine qu'on pêche plus qu'une fois par jour. Mais pour le croyant, on a cet encouragement qui pardonne toutes tes fautes. qui pourrait vivre si Dieu gardait le souvenir de nos péchés? Le psaume 130 nous dit ceci, cantique de degrés, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu garderais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » Mais il a dit, « Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Oui, le pardon se trouve auprès de notre Dieu. Nous pouvons amener tous les péchés au Seigneur, sachant qu'il les pardonnera. Il pardonne complètement. Plus tard, dans Psaume 103, verset 12, il dit, « Il a éloigné de nous, il a éloigné nos péchés aussi loin de nous que l'Orient est éloigné de l'Occident. » Et il ne pardonne pas partiellement, nous laissant une certaine culpabilité qu'il faut porter toujours. Son pardon est un effacement complet de nos péchés. C'est pourquoi il ne faut pas avoir cette idée qu'il faut faire une certaine pénance quand vous avez péché et vous avez demandé pardon. Et c'est souvent qu'est-ce qui est arrivé après. On se sent toujours coupable et on veut faire quelque chose. Et on pense que voilà, il faut faire. Et après, Dieu sera agréé envers moi. Mais David est en train de souligner que le pardon se trouve auprès de Dieu. Et c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Ne tardez pas. N'oubliez pas ce bienfait de Dieu. Bénissez l'Éternel maintenant. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Comment cela peut arriver? Le pardon de Dieu a sa fondation dans le caractère de Dieu. Ce psaume souligne trois caractères de Dieu: sa compassion, sa miséricorde et sa justice. Vous allez voir une répétition de ces mots à travers tout ce psaume, mais ce sont ces trois choses qui sont essentielles pour le pardon. Sa justice, pourquoi? Sa justice exige un jugement pour votre péché. Mais il y a aussi sa compassion. Sa compassion a pour voir la solution pour vos péchés. Dans son Fils, Jésus-Christ a porté nos péchés et il était crucifié pour qu'on puisse être pardonné. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang sur la croix pour que Dieu puisse nous pardonner. Sans Christ, nous sommes sous la colère de Dieu. En dehors de Christ, nos péchés ne seront pas pardonnés. En dehors de Christ, nous ne pourrons jamais être sauvés de nos péchés, de l'enfer. Mais puisque Christ est notre Sauveur, nous possédons maintenant toutes ses bénédictions, et même plus encore. Nous avons toutes les richesses en Christ, et une de ces richesses que nous avons parce qu'on a cru en Christ, c'est le pardon du péché. Et c'est sa miséricorde qui maintenant offre le pardon à tous ceux qui croient dans la plénitude de sa personne et de son œuvre pour sauver du péché. Cette fois, est exprimé simplement par une phrase que Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bénis le saint nom de Dieu aujourd'hui pour ce pardon de péché qui se trouve en Jésus-Christ. Et pour clôturer, n'oublie pas aussi verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, combien de fois est-ce que vous étiez malade et combien de fois vous avez retrouvé la santé? Si vous n'avez pas retrouvé la santé, si vous êtes toujours malade, Dieu est capable de guérir. Il peut utiliser les médicaments, les médecins, le laboratoire, même les conseils d'une amie. Mais il faut aussi savoir si Dieu permet une maladie à continuer dans votre vie. Tu peux savoir qui le permet pour sa gloire. Combien de gens dans leur maladie glorifient Dieu plus par leur vie que ceux qui sont en parfaite santé. Regardez l'histoire de l'Église et vous allez voir que Dieu utilise tout pour sa gloire, même les maladies. Et c'est souvent ceux qui ont des maladies que Dieu utilise le plus. Et pourquoi? Parce que quand nous sommes malades, quand nous avons des faiblesses, c'est là où nous reconnaissons sa force. Et c'est là où nous dépendons sur sa force. Arrêtez maintenant aussi et bénir l'Éternel pour la guérison. Et même, oui, bénis l'Éternel pour ta maladie. La semaine prochaine, on va continuer à regarder comment nous pouvons bénir l'Éternel avec notre âme et comment nous pouvons se souvenir encore des autres bienfaits de Dieu. Le psalmiste, il termine psaume 103, avec une phrase que je trouve intéressante. La dernière phrase de ce psaume, c'est encore « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est comme il sait qu'il est prêt à oublier et il a voulu une dernière rappel « Mon âme bénit l'Éternel ». Que le Seigneur nous aide à bénir l'Éternel toute cette semaine et toute notre vie, qu'on n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions. Seigneur, merci pour ce psaume qui nous encourage ce matin. Merci pour tous tes bienfaits envers nous, et surtout pour ce pardon que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ce grand privilège d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui ils puissent trouver le plein pardon du péché. Seigneur, le pardon se trouve auprès de toi. Que les gens, je prie, Seigneur, puissent accepter ce pardon, accepter ton Fils pour avoir ce pardon. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.